Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, convergence des droits sociaux, vers le bas ou vers le haut? Les chauffeurs Uber sont-ils des salariés ou des travailleurs indépendants? À cette question, l'URSSAF d'Île-de-France répond « des salariés ». Elle demande donc au groupe américain le paiement de cotisations à hauteur de quelques millions d'euros. Le petit monde de l'économie collaborative est inquiet. C'est notre avenir qu'on assassine. À la SNCF, les négociations se poursuivent autour du projet de nouvelle convention collective. Celle-ci devra s'appliquer à terme à l'ensemble des cheminots, qu'ils appartiennent au groupe public comme au secteur privé, puisque le trafic ferroviaire s'ouvre à la concurrence. Les syndicats sont soucieux, gare au moins 10 ans social. Ces deux exemples témoignent de la difficulté à faire coexister dans un même secteur de manière équitable des entreprises ou des formes de travail qui ne reposent pas sur des règles communes. Dès lors se pose la question de la façon d'harmoniser ces règles et les droits sociaux qui leur sont liés. Oui, mais comment ? Convergence des droits sociaux vers le bas ou vers le haut ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités ce soir. Luc Berry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de l'UNSA, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, un syndicat très présent chez les fonctionnaires dans les transports, un des syndicats d'ailleurs à avoir appelé à la grève reconductible à la SNCF à partir du 31 mai prochain. Pour discuter avec vous, Grégoire Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous présidez la Fédération des auto-entrepreneurs, vous êtes par ailleurs le cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation. Juste un mot sur cet observatoire?
C'est un observatoire qui a pour objectif justement de s'intéresser à tous les sujets posés par l'économie collaborative, notamment les cas de requalification en salariat, et de faire évoluer aussi les droits sociaux de ces travailleurs indépendants ubérisés au profit d'un droit social meilleur.
Sachant d'ailleurs que tout le monde n'est pas d'accord pour classer Uber dans l'économie collaborative. Bon, enfin, ce serait un autre débat. Je précise que vous avez signé une tribune il y a quelques jours dans la tribune, justement. URSSAF contre Uber, le choc de deux modèles. Troisième invité, Jean-Claude Barbier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous faites partie de l'équipe Matisse au sein du Centre d'économie de la Sorbonne. Et vos recherches portent sur la comparaison des systèmes de protection sociale en Europe. Alors, je voudrais qu'on commence par cette affaire URSSAF, disons, versus Uber, avec l'URSSAF, je rappelle, c'est l'organisme de recouvrement des cotisations salariales et patronales, et donc la branche francilienne de l'URSSAF qui a engagé des procédures contre Uber en considérant que ce sont des salariés, non pas des travailleurs indépendants qui travaillent pour Uber et qui lui demandent donc des arriérés de cotisations. Luc Berry, est-ce que pour vous, l'URSSAF a raison de considérer que les chauffeurs d'Uber sont des salariés?
Écoutez, nous avons un syndicat UNSA des chauffeurs de taxi Uber et eux pensent effectivement qu'ils sont dans une situation de ce qu'on appelle juridiquement la subordination. C'est un aspect du débat qui est un aspect juridique.
C'est un aspect important dans le droit du travail.
Bien sûr, en termes de droit du travail, un contrat de travail dans le secteur privé, c'est un contrat dans lequel le salarié est en position de subordination vis-à-vis de son employeur. Justement, le sens du contrat de travail, c'est de préciser la nature de ce lien, en tout cas en termes de conditions, de rémunération, etc. Et on a là, avec le cas des plateformes Uber, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes, bien évidemment, une situation qui n'est pas juridiquement fondée par de la subordination, parce qu'il n'y a pas de contrat de travail, mais qui, en tout cas, dans les faits constitutifs, montre bien que les travailleurs Uber, les chauffeurs de taxi Uber, sont bien totalement dépendants de cette plateforme, et donc ils sont assez largement subordonnés sur toute une série d'aspects qui conditionnent leur accès au travail. Donc, et y compris leur rémunération et leur possibilité d'ailleurs d'avoir du travail, puisque la plateforme a un pouvoir sur eux qui est considérable.
Donc il n'y a pas de raison pour vous que la plateforme ne paye pas de cotisations salariales.
Alors ça fait partie des choses qu'il va falloir clarifier, mais en tout cas, quel que soit le statut, si on veut étendre au-delà d'Uber, que ce soit un travailleur dit indépendant ou un travailleur dit salarié, sur la question qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire sur la question des droits sociaux, il faut trouver la façon dont ces personnes accèdent à des droits sociaux. On a quand même besoin de protection, quel que soit son statut. Et lorsque cette protection doit être attachée au contrat de travail, il faut évidemment que les personnes concernées y aient accès.
Alors, plutôt d'accord avec l'URSSAF du côté de l'UNSA et de Luc Berry. Grégoire Leclerc, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Moi, si vous voulez, moi, je suis ni l'URSSAF ni Uber, donc j'ai pas de position à prendre très claire sur le conflit qui les oppose.
Enfin, votre tribune, elle est quand même assez, assez claire en disant, en gros, l'URSSAF a faux sur tout, à tous les niveaux.
Oui, hein. L'URSSAF a faux sur un certain nombre de points, et notamment sur le point juridique. Je peux vous dire qu'on étudie très profondément les critères de requalification juridique de ces travailleurs indépendants en salariés. On en est au tout début de la procédure. L'URSSAF est loin d'avoir gagné, très clairement, parce que il n'y a pas en réalité de vraie relation de subordination au sens jurisprudentiel du terme français. Il n'y a pas ni de dépendance matérielle, ni de dépendance géographique. Le chauffeur est tout à fait libre de se connecter ou de ne pas se connecter à la plateforme. Il peut rouler où bon lui semble, quand bon lui semble. Le chauffeur a une dépendance économique, en revanche. Mais la dépendance économique à elle seule ne suffit pas à justifier une requalification en contrat de travail. Si d'ailleurs c'était le cas, tous les taxis de G7 seraient tous des salariés de G7, et ça fait bien 60 ans qu'ils sont tous totalement dépendants économiquement de G7, et que pour autant, on n'a jamais vu en droit français des taxis de G7 requalifiés en salariés.
Ça, ce sont les arguments sur le plan juridique qui sont évidemment extrêmement importants,
oui,
hein, dans le droit, bien sûr, du travail.
Tout à fait.
Mais en tout cas, sur la question des principes, disons. Alors, c'est-à-dire, si on s'extrait du juridique.
Oui, alors si on s'extrait du juridique, on voit que finalement, on peut prendre de la hauteur dans les modèles, on voit que l'URSSAF défend un modèle qui est quand même honnêtement le modèle qui a prévalu dans les 60 dernières années, qui est un modèle 100% salarial, qui hérite de toute une longue histoire de droits sociaux, d'acquis, etc. Et ne conçoit pas, aujourd'hui dans sa manière de faire, qu'il puisse y avoir des modèles alternatifs de collaboration, des alternatifs de travail, qui ne soient pas des modèles exclusivement salariés, mais des modèles plus de relations commerciales entre un prestataire qui peut être un petit peu protégé aussi par la plateforme, j'ai rien contre, mais qui ne dépend pas totalement de la plateforme comme s'il était un salarié. Et c'est là que, je pense, l'URSSAF se trompe de combat.
Jean-Claude Barbier, est-ce que vous voyez dans cette confrontation, la confrontation entre deux modèles, un modèle traditionnel, peut-être un peu ancien et voire un peu dépassé, qui serait celui de l'URSSAF, et puis un nouveau modèle qui arrive et qui suppose justement que l'on s'y adapte?
Le modèle que vous appelez ancien, en effet, il a déjà plusieurs siècles. C'est le modèle du salariat. Donc le salariat, c'est toujours ce qui est le statut de l'immense majorité des gens qui travaillent. Il y a plusieurs autres statuts, dont le statut des indépendants, et il y a tout à fait coexistence de tous ces statuts avec un certain nombre de règles de la protection sociale. Mais la question clé, c'est de ne pas mettre en danger ce qui est le statut général, d'ailleurs pas seulement en France, c'est pas une spécialité française, par des dispositions qui pourraient s'étendre ou remettre en cause le droit du travail et la protection sociale.
Si ce statut du salarié, Jean-Claude Barbier, est encore largement majoritaire, est-ce qu'on peut quand même constater qu'il est de moins en moins, disons, largement majoritaire, et que la tendance, elle est davantage vers le développement d'autres formes de travail?
Je pense qu'il y a eu beaucoup d'activisme pour diffuser des évaluations de cette tendance expansive, et malheureusement beaucoup de gens se contentent de choses assez superficielles. Vous avez eu une rafale de rapports qui sont succédés ces derniers mois, même l'année passée, le rapport Mettling, vous l'avez, le rapport Terrasse, il y avait eu un rapport bien précédent en 2014 du Conseil d'analyse économique.
Il y a eu le rapport Badinter, il y a eu le rapport Combrexel.
Oui, ça c'est sur le droit.
Voilà.
Mais moi je parle sur l'évolution, si vous voulez, la perspective du salariat. C'est d'ailleurs un sujet qui est également étudié par France Stratégie, avec d'ailleurs un certain nombre de biais, parce qu'ils partent de l'idée que le salariat est, disons, quelque chose du passé. Ce qui n'est pas le cas. Les faits ne sont pas le cas. Et le salariat couplé avec la protection sociale, ce n'est pas non plus un fait du passé, c'est un fait massif.
Alors je vois que Luc Berry, je rappelle, secrétaire général de l'UNSA, vous approuve sur l'idée de dire que c'est encore quelque chose de largement majoritaire que le salariat. Est-ce que, alors, pour progresser un petit peu dans la discussion, il faudrait envisager une généralisation du salariat, y compris à ces nouvelles formes de travail? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser, ou bien alors est-ce qu'il faut penser en termes de convergence des droits sociaux, puisque c'est un petit peu c'est même carrément le terme que nous avons retenu ce soir pour notre discussion.
Non, je pense que c'est un peu le débat de fond. Alors d'abord, moi je partage l'idée, et tout simplement le constat d'ailleurs, que le développement des plateformes numériques et de nouvelles formes de travail qui remettent en cause les frontières classiques entre salariat, travailleurs indépendants, avec sans doute des possibilités d'aller-retour, c'est ce qu'on voit quand même beaucoup entre ces différents statuts. On a encore du mal à l'identifier parce que c'est quelque chose de relativement nouveau mais qui se développe très vite.
En tout cas, vous êtes d'accord qu'il y a une remise en cause.
Mais il y a une remise en cause, il y a une évolution. Par contre, je ne partage pas du tout l'idée qui voudrait que le salariat serait appelé à très rapidement disparaître au profit de cette nouvelle forme de travail. Je pense que c'est erroné. Ce type de travail va se développer, oui, mais pas au point de devenir majoritaire dans la société.
Et ce type de travail doit se glisser dans les règles du salariat, justement ?
Il faut forcément que nous y sommes confrontés. Donc, ces personnes ont des besoins de protection sociale, bien évidemment, donc il faut y répondre. Et je crois que c'est un des aspects de ce que nous devons discuter aujourd'hui, c'est que il y a un certain nombre de droits qui ont été construits, de droits sociaux qui ont été très largement rattachés, c'est notre histoire, pas qu'en France, mais notamment en France, au contrat de travail, au statut, et tout le débat aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire évoluer, en tout cas nous en sommes partisans à l'UNSA, c'est que sur un certain nombre de droits, ils doivent logiquement rester indexés à la situation de travail, mais il faut qu'ils puissent suivre les personnes, il faut qu'ils soient attachés à la personne, et beaucoup de droits sont déjà ouverts bien au-delà du simple statut de salarié. Je donne juste cet exemple, tout le monde aura ça en tête, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, c'est-à-dire la Sécurité Sociale version Assurance Maladie, bon, son vrai nom d'origine, qu'elle a gardé d'ailleurs, c'est la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. Et effectivement, à l'origine, on fête son anniversaire, la CNAM au point de départ, l'assurance maladie, est d'abord constituée pour faire face aux situations d'arrêt de travail dû à un problème de santé et qui interrompt le salaire, puisqu'il y a dans ces moments-là une interruption du salaire, il y a une suspension momentanée du contrat de travail, et donc il fallait verser un salaire de substitution, un revenu de substitution. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens, et c'est heureux, c'est un droit qui s'est universalisé, et c'est très bien pour la société, et donc indépendamment du fait que vous ayez un travail ou pas, c'est très bien pour les chômeurs et pour toutes les personnes qui ne sont pas en situation de salarié, ça a été un progrès considérable pour notre société, donc il faut qu'on remette à plat l'ensemble de ces droits, qu'on voit comment effectivement on les laisse attachés ou non à des situations de travail, et au-delà, que quand ils sont attachés à des situations de travail, ils puissent être transportables, si j'ose dire, transposables. C'est tout le débat de, on va pas débattre de la loi El Khomri, mais du CPA, du compte personnel d'activité, qui a ce mérite d'essayer de mettre en place des droits qui sont attachés à la personne et pas simplement au statut de salarié dans une entreprise.
Grégoire Leclerc, est-ce que la transposabilité de ces droits, elle peut, si elle est menée trop rapidement, par exemple, ou trop largement, d'après vous, mettre en péril cette économie collaborative qui en est encore à ses années de naissance?
Ah, bien sûr, l'économie collaborative n'a pas, dans son modèle économique de départ, considéré qu'elle avait les mêmes coûts que si elle prenait en charge des salariés pour réaliser les missions qui sont réalisées aujourd'hui par des indépendants. Donc très clairement, les plateformes ne sont pas prêtes aujourd'hui, et c'est clair que demain, Uber voit tous ses salariés, tous ses prestataires chauffeurs requalifiés en salariés, elle ferme sur le champ son activité économique française. Mais c'est bien là toute la question. Parce qu'en réalité, moi je voudrais revenir aux chiffres. On parle du salariat comme le modèle général et aujourd'hui représente en France 93% des actifs. Ce qui, entre nous soit dit, fait de nous le dernier pays des grosses puissances économiques en matière de ratio indépendant salarié. Je rappelle que c'est plutôt autour de 85-86 en Angleterre et autour de 60, entre 54 et 60 aux États-Unis. Donc on a un taux de salariat absolument énorme par rapport à la population active totale.
On est le dernier ou on est le premier,
hein. On est le premier, on va dire, en matière de système social, salarial, si vous voulez. Bon, la question qui se pose, c'est que depuis près de 10 ans maintenant, on ne voit qu'une destruction de l'emploi. On ne voit que ça. On ne crée plus d'emplois salariés en France depuis des années et des années. Et on voit bien qu'en contrepartie de cela, et je le connais bien pour avoir suivi des autres entrepreneurs au quotidien depuis des années, les gens reprennent un pied dans l'activité économique par une activité indépendante. C'est une nouvelle manière pour eux de travailler, c'est une nouvelle manière de reprendre un pied dans l'emploi. Certains retrouvent d'ailleurs une activité salariée après, mais cette étape finalement un peu intermédiaire de l'activité économique intermédiaire via le travail indépendant est centrale. Et donc, si on n'a pas conscience que, par exemple, Uber a créé plus de 30 000 équivalents temps plein en mode indépendant, rien qu'en France, sur les deux ou trois dernières années, on va déjà se tromper de débat, parce qu'il y a une cible importante d'une population sociale à accompagner, qui a besoin de gagner de l'argent, qui a besoin d'un revenu, qui a besoin d'être mieux protégé, mais qui, de toute façon, ne se retrouvera pas dans une situation salariale.
Jean-Claude Barbier, ce qui compte avant tout, c'est l'emploi et la question des droits sociaux, elle vient après ?
Non, je pense que ça vient en même temps. Ça vient en même temps. D'abord, on n'a pas les études économiques qui prouvent que un modèle tel que celui d'Uber soit vraiment créateur d'emplois. Ceci n'existe pas à ma connaissance. Très souvent, on n'a pas d'études économiques qui montrent un certain nombre de choses qui sont dans le débat, du style, par exemple, vous n'avez pas d'études économiques qui vous disent les petits entrepreneurs renoncent à embaucher parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir licencier. Ça n'existe pas. Bon. Donc, on ne peut que, évidemment, imaginer que le recours au statut d'indépendant, par la flexibilité, etc., de ce que ça peut apporter, sera créateur d'emplois. Il n'est pas d'ailleurs du tout question d'interdire la création d'emplois par ce moyen. La question, c'est la question du passager clandestin, si vous voulez. C'est-à-dire la question de ceux qui ne déclarent pas leurs revenus, qui gagnent de l'argent d'une façon... c'est le salariat dissimulé. C'est toutes ces questions qui mettent en cause la solidarité et la loi commune. C'est ça la question. Donc, il faut revenir à ce point tout à fait clé. Il n'y a pas de raison que, on a aussi l'histoire de Google ces temps-ci, il n'y a pas de raison que des entreprises qui sont délocalisées ou qui ont leur centre nerveux dans d'autres pays n'appliquent pas la parce que l'autre question qui va avec, évidemment, c'est que un droit du travail et une protection sociale, ça suppose une communauté politique. Et cette communauté politique, ça n'est pas la communauté internationale. C'est une communauté soit allemande, soit française, soit américaine. Et si les Américains ont des styles de vie qui leur autorisent d'avoir 60% au lieu de 90%, ben tout à fait possible. Mais tout ceci est indexé, pour en prendre votre mot, à la communauté politique.
Mais Jean-Claude Barbier, si des entreprises réussissent, par exemple, aujourd'hui, à s'abstraire, on va dire, de ce qui peut être considéré comme un socle commun de droits sociaux, par exemple, en français, est-ce que ça n'est pas la preuve que ce socle-là est inadapté aujourd'hui à ces nouvelles formes d'activité et qu'il y a au moins, en tout cas, besoin de re-réfléchir à la façon dont ces droits sociaux doivent être organisés?
Mais qui a besoin de re-réfléchir à la façon dont ça doit être organisé, je vous l'accorde volontiers. Je travaille sur cette question. Vous avez parlé de la convergence. C'est un sujet qui est traité dans les rapports que j'ai cités tout à l'heure. Par exemple, le rapport Mettling, c'est des sujets qui sont évoqués. Là, il existe déjà des travaux avec de la négociation autour de cette question. Et elle a commencé, hein, pour savoir comment on peut rapprocher les droits qui découlent du RSI, par exemple.
Tout à fait.
Tout ça, c'est très important.
Grégoire Leclerc.
Mais en fait, c'est bien le sujet. C'est-à-dire que ce que je voudrais pas qu'on fasse croire, c'est que le chauffeur Uber, par exemple, n'a pas de protection sociale. Le chauffeur Uber, il est inclus dans une communauté politique, dans une communauté sociale existante. Il est travailleur autonome indépendant, il paye des charges sociales, il paye des cotisations pour se protéger en termes de maladie, en termes de maternité, en termes de retraite. Mais la pomme de discorde, c'est qu'il en paye moins que s'il était salarié et que l'entreprise aurait à les payer, et que donc il en a pour son argent parce qu'en payant moins, il a moins de protection sociale. Autrement dit, il a très peu d'indemnités journalières s'il est malade, il a une retraite plus faible et il n'a pas d'assurance chômage. C'est ça le point. Donc est-ce qu'on fait converger vers le bas en disant plus d'assurance chômage pour personne, ou est-ce qu'on fait converger vers le haut en disant assurance chômage pour tous? Mais à ce moment-là, la question c'est toujours la même, qui la paye?
Et vous répondez comment, vous, brièvement?
Je propose qu'on fasse un petit chemin en allant vers le milieu, et qu'on dise, les plateformes vont pouvoir, mais c'est d'ailleurs, et moi je défends la loi El Khomri, je suis peut-être un des seuls encore en France à le faire, mais je défends la loi El Khomri parce qu'il y a un article, l'article 27 bis dans la loi El Khomri, qui propose que les plateformes commencent à contribuer socialement à la protection sociale de leurs travailleurs indépendants, et ça c'est une vraie victoire.
Luc Berry.
Non, vous n'êtes pas seul, c'est la position de l'UNSA aussi.
On est deux.
Ben voilà, la Fédération des auto-entrepreneurs et l'UNSA.
Voilà, ça fait un peu plus de deux quand même à l'UNSA. Non, parce qu'effectivement, c'est un des vrais sujets, quelle que soit la situation des personnes en l'occurrence. En tout cas, là, si on parle d'Uber, qui est une situation un peu à part par rapport à certaines plateformes dont on hésite pour savoir si elle est totalement collaborative ou pas, ça fait partie aussi du débat. Effectivement, il y a dans la loi El Khomri, et nous y étions très favorables, un certain nombre de mesures qui sont proposées pour faire en sorte que de donner aussi des obligations sociales vis-à-vis de ceux qui n'en sont pas salariés, mais qui de fait sont quand même très dépendants pour leur activité de la plateforme. Voilà. Bon. Après, moi, je partage ce qui a été dit sur... la nécessité de re-réfléchir et d'adapter parfois ces questions générales de droit, parce que comparaison n'est pas toujours raison. Effectivement, on peut prendre le pourcentage de travailleurs indépendants aux États-Unis à juste titre. Il est beaucoup plus élevé qu'en France ou même qu'en Europe en règle générale d'ailleurs. Mais comme notre sujet de ce soir, c'est de parler de droit, les droits sociaux sont aussi singulièrement plus bas aux États-Unis pour beaucoup. C'est pas vrai pour tout le monde d'ailleurs.
Oui, mais y compris dans le droit salarié. Y compris dans le droit salarié américain. Donc c'est la...
Mais je ne conteste pas ça, mais ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure et qui est fondamental, c'est qu'au point de départ, il y a des choix politiques, il y a une communauté politique, voilà, avec des choix à assumer. Et le défi qui nous est lancé en matière de protection sociale et en tout cas d'accessibilité à des droits aujourd'hui, qui peuvent être des droits soit universels, soit des droits qui sont davantage attachés à une situation professionnelle, en l'occurrence situation de salarié dont on parle, c'est ce débat-là qu'il faut éclaircir, pas simplement éclaircir, mais sur lesquels on a déjà quand même assez commencé à avancer. J'évoquais l'assurance maladie tout à l'heure, mais ça fait quand même quelque temps que l'assurance maladie n'est pas alimentée que par des cotisations dites sociales assises sur les salaires, d'autres contributions, c'était tout le débat de la CSG par exemple. Bon, donc on a déjà largement entamé ce débat, mais il faut le poursuivre parce que, quelle que soit la situation des personnes, y compris un travailleur indépendant, on en connaît nous aussi un certain nombre, c'est parfois une situation qui est extrêmement transitoire. On peut passer d'un statut à un autre extrêmement rapidement. Si vous tombez malade pendant ce temps-là, si vos enfants tombent malades pendant ce temps-là, quelle protection ils trouvent, quel que soit leur statut. C'est quand même ça aussi le débat de comment est-ce qu'on organise ce système et que comment, évidemment, chacun ou chacune y contribue.
Jean-Claude Barbier.
Là, c'est une excellente, un excellent exemple là, sur la couverture maladie, puisque vous savez bien que pratiquement le financement est désormais... non pas fondé sur les cotisations, mais fondé sur une contribution solidaire générale. Et en plus, les droits sont généraux. Les nouvelles lois sont universelles. Alors évidemment, quand on peut être différemment couvert, bien sûr, mais aujourd'hui, en France, on a une forme de couverture maladie universelle qui a encore été renforcée dans les dernières années. Alors, donc, c'est bien à l'intérieur de la communauté politique française qu'il faut définir cette affaire. Donc, s'il y a une forme de commune couverture de la maladie comme un droit universel, à ce moment-là, comme par exemple en Grande-Bretagne aussi, il faut le définir à l'intérieur de la communauté. Et donc, tout le monde doit contribuer au financement. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de passagers clandestins qui disent, bon ben nous, puisqu'on est à travers les frontières, eh bien on se fiche de la souveraineté sociale.
Merci, on pousse la réflexion un petit peu plus loin. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se demander si il ne faudrait pas davantage dissocier, on va dire, les droits sociaux du travail et en faire des droits sociaux universels, mais qui seraient vraiment attribués à l'ensemble de la population? Et là, je pense à un thème qui est de plus en plus régulièrement abordé aujourd'hui. Nous, on y a déjà consacré deux émissions par le passé, qui est ce fameux revenu universel de base. Qu'est-ce que vous en pensez, Grégoire Leclerc? C'est-à-dire de se dire, finalement, les droits sociaux, ils sont les mêmes pour tous, mais ils sont déconnectés du fait que l'on travaille ou qu'on ne travaille pas.
Alors, le revenu universel, c'est honnêtement une grande idée. Je crois c'est un peu la solution de facilité. C'est-à-dire que je suis pas un extrêmement ardent défenseur de ce modèle. Pour plein de raisons. La première, c'est que dans la mise en œuvre, c'est extrêmement complexe. Ce qu'on sait dire, c'est que si on prend effectivement l'ensemble des cotisations sociales réalisées, enfin prestées par l'ensemble des entreprises et des indépendants qui cotisent, on arrive à 35% du PIB, on divise par le nombre d'habitants, et on arrive grosso modo à 700 euros par mois par personne vivante, de nationalité française, ou avec un titre de séjour sur le territoire. Ce qui veut dire donc qu'avec ça, ils ont donc une protection sociale à se payer, ils ont une retraite à se préfinancer ou à se financer, ils ont des allocations familiales à mettre de côté, etc. Et donc on les verse dès la naissance de l'enfant jusqu'à la mort. Bon, la mise en œuvre est extrêmement complexe, mais c'est pas tellement le sujet de la mise en œuvre qui est embêtant, c'est plus le sujet, je trouve, de la manière dont on responsabilise la personne qui bénéficie de cette allocation. C'est que finalement, quelle que soit votre situation, que vous ne travaillez pas, que vous travaillez, que vous soyez hyper actif ou que au contraire vous soyez mineur à l'école, vous avez cette même somme, et comme si l'État se désengageait complètement de la façon dont vous êtes accompagné dans la vie. Si vous êtes handicapé, vous avez les mêmes protections sociales que si vous ne l'êtes pas. Si vous aviez une retraite de 4000 euros, d'un coup vous tombez à 700, qu'est-ce que vous allez faire des 3700 que vous n'avez tout ne touchez plus? Donc ça pose énormément de problèmes de responsabilité du français par rapport à cette allocation versée.
Luc Berrier, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la ligne de ça?
Moi, je pense que le débat a quand même beaucoup avancé à ce sujet-là en France. Enfin, on peut discuter de cette nouvelle forme. Enfin, le RSA existe en France. Je pense que c'est un acquis social important. La grosse difficulté sur le RSA, c'est que on doit, je pense, dans une société civilisée qui en a les moyens, on vit quand même dans un contexte où on peut décider ça collectivement. C'est un peu une forme de modèle européen qui existe aussi d'ailleurs à ce niveau-là. On peut décider qu'effectivement personne ne doit être laissé sur le bord de la route et assurer des conditions minimales d'existence assorties de droits, parce que il n'y a pas que la question du revenu, il y a la question des droits, qui sont pas strictement, bien évidemment, la même chose. Bon.
D'ailleurs, Jean-Claude Barbier évoquait un certain nombre de rapports tout à l'heure. Il y en a un qui a été rendu au mois d'avril dernier par le député socialiste Christophe Sirugue. Oui. Je crois que c'est Sirugue.
Sirugue,
pardon. Et qui a été remis à Manuel Valls. Repenser les minima sociaux vers une couverture socle commune. Et lui, sa grande idée, c'est de fusionner l'ensemble des minima sociaux. Alors, ce n'est pas le revenu universel de base, mais on va dire que c'est un petit peu dans cette philosophie-là que vous décrivez, Luc Berrier.
C'est-à-dire qu'on a effectivement, parce que c'est l'histoire et parce qu'on a construit les choses par strates, mais on a la même chose sur l'ensemble de notre système de protection sociale, souvent d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on a des strates qui se sont construites petit à petit, et le propre des strates, c'est qu'elles s'accumulent, parfois de façon un peu contradictoire, souvent de façon difficile à gérer et pas toujours lisible pour celles et utilisable pour celles et ceux qui devraient en profiter. Bon, voilà. Donc cette idée d'unifier les dispositifs, a priori, est plutôt une bonne idée, mais ça nous renvoie au thème de ce soir, c'est par le haut, par le bas, comment ça fonctionne. Et c'est un des problèmes qu'on a, par exemple, je reviens à l'histoire du compte personnel d'activité, que nous soutenons, ça fait plus de 20 ans qu'on se base pour des droits attachés à la personne qui suivent justement les gens et qui accompagnent leur parcours professionnel. Donc on est vraiment très très militant là-dessus. Et en même temps, on a un problème aujourd'hui, mais je préfère avoir ce genre de problème à régler que d'avoir tout à reconstruire. Mais tous les droits n'étant pas de cette nature, ils ne sont pas tous transposables aujourd'hui. Donc ça fait partie des choses qu'il va falloir faire évoluer, bien évidemment. Mais aller vers un système qui, à terme, soit plus clair sur les choix finalement politiques, fondamentaux de société, je pense que c'est souhaitable. Mais après, effectivement, il faut garder un peu de réalisme sur le fait qu'il faut construire des choses qui soient surtout efficaces. Et c'est un petit peu la difficulté qu'on a. Mais en philosophie générale, moi je pense que il faut partir du principe que nous sommes dans une société civilisée. Il faut qu'effectivement on assure un minimum de conditions d'existence à toutes et à tous. Et moi je ne pense pas qu'il y ait d'obligation de penser, parce que c'est un peu le terme qui est souvent utilisé, c'est l'organisation d'un assistanat. Il faut évidemment penser les choses de façon pratique et concrète, mais quand je parlais, moi, d'accompagnement dans les parcours professionnels, l'objet, c'est pas simplement un revenu minimum, c'est aussi, je vais utiliser un terme technique, la garantie jeune, qui a été généralisée comme un droit universel dans le projet de loi El Khomri pour le moment. C'est aussi une façon de considérer les jeunes, pas simplement pour leur donner un revenu minimum, c'est déjà important, mais aussi pour les accompagner vers l'emploi avec un certain nombre d'actions concrètes. Donc on n'est pas dans de l'assistanat, entre guillemets, simplement. Et puis on est aussi dans une relation à un marché de travail qui est extrêmement difficile. Il y a quand même la majorité des gens qui ne trouvent pas de travail parce qu'il n'y en a pas.
Jean-Claude Barbier.
Il y a énormément de développement de l'intérêt autour de ce revenu universel, qui est une vieille idée, y compris chez nous. Et en fait, il y a, je n'ai pas le temps de faire un panorama, malheureusement, mais disons, il y a pour simplifier, il y a deux façons qui se séparent de façon radicale. C'est l'idée d'un revenu universel comme remplaçant la protection sociale existante, et l'idée d'un revenu universel, comme vous avez cité le RSA, comme étant un revenu d'assistance ou d'aide sociale, comme on dit chez nous.
Qui explique d'ailleurs que ce soit une idée qui soit portée aussi bien à gauche qu'à droite.
Hein. Oui, mais aussi c'est l'histoire, hein, parce qu'il y a des libéraux, il y a des libéraux les plus réactionnaires qui déportent ça aux États-Unis depuis des années, et puis il y a des gauchistes ultra-marxistes aussi, donc si vous voulez. Mais la question clé, c'est le financement et la façon dont c'est articulé avec la protection sociale existante. Moi, je suis un spécialiste de la protection sociale, et je peux vous dire que la protection sociale, c'est pas simplement un petit revenu supplémentaire qu'on distribue comme ça. La protection sociale, c'est une véritable institution constitutive de la société. D'ailleurs, on le voit quand on compare les pays dits riches d'Europe, et parmi d'ailleurs les pays d'Europe, ceux qui sont les plus pauvres, qui n'ont pas cette institution de la protection sociale comme ancré depuis des années et des années, et qui a toute une série de fonctions. Donc, si vous voulez, la solution de mettre un revenu de base, c'est une solution qui a été proposée principalement par des libéraux qui ont envie d'en finir avec la protection sociale au sens classique. Bon, l'un d'entre eux est très connu, c'est un professeur belge qui s'appelle Philippe Van Parijs, et qui introduit le revenu de base pour des raisons de justice universelle dans le monde entier. On est tous des citoyens, et c'est tout à fait égoïste que de penser à un revenu de base en France. Il faut penser à un revenu mondial. Et pour avoir un revenu mondial, il faut étendre des ressources, mais évidemment, il ne faut pas garder tous les impedimenta de la protection sociale allemande, la française, etc., qui sont très différentes. Donc c'est ça l'idée fondamentale. Et on simplifie dans cette idée-là, mais cette simplification, évidemment, est totalement farfelue.
Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, vous, Grégoire Leclerc, à la Fédération des auto-entrepreneurs, de l'état de notre protection sociale aujourd'hui, du point de vue justement
des indépendants.
Des indépendants, voilà, et des auto-entrepreneurs.
On est conscient que la protection sociale d'un indépendant, de manière générale en France, est moins bonne que celle d'un salarié, que globalement, on nous fait sans cesse un peu le reproche que notre financement de notre protection sociale n'est pas équilibré, ce qui d'ailleurs est un reproche qu'on pourrait très bien faire aussi au modèle salarial, puisque il y a en fait en France aucune protection sociale qui est réellement équilibrée. Mais on a ce reproche-là, et donc on a plutôt vu les droits des auto-entrepreneurs et des indépendants rogner depuis ces dernières années, parce qu'effectivement, il y a des contributions qui sont très faibles, les droits à la retraite sont très bas, les droits, les indemnités journalières ont été quasiment supprimées pour tout le monde. Et donc, on est plutôt sur une logique de rabaissement de notre protection sociale que d'augmentation de la protection sociale. Alors, on essaye, et c'est un peu notre boulot, de faire en sorte que cette protection sociale soit améliorée par un certain nombre de sujets. Ce que je trouve un peu ironique dans notamment l'histoire des plateformes qui doivent contribuer à la protection sociale de leurs indépendants, c'est que l'État s'achète un peu à bon compte une protection sociale qu'il n'a pas su fournir à ses indépendants depuis 1945. Parce qu'en fait, depuis 1945, qu'est-ce qui se passe? Mon père est artisan du bâtiment, 35 ans d'artisan du bâtiment, il n'a pas une retraite qui doit dépasser les 500 euros. Donc en fait, ça fait des années et des années et des années qu'on a laissé les indépendants dans une protection sociale bien moindre. Alors en général, ils avaient un fonds de commerce qu'ils arrivaient à vendre, ils avaient plein d'autres choses qui faisaient qu'ils arrivaient à s'y retrouver. Mais aujourd'hui, la masse augmentant, le nombre d'indépendants passant de 1 à 2 à 3 millions, à 4 millions peut-être en 2020, ben on commence à se dire que ça devient un sujet de société. Et on a des gens qui sont mal protégés, mais on ne sait pas comment financer cette protection, et on tombe toujours autour du pot en se disant ben, qui va la financer? Alors si on faisait faire payer aux plateformes ce que l'État ne sait pas faire.
Et est-ce qu'à contrario, vous diriez ben, y a des gens qui sont mal protégés, y en a d'autres qui sont peut-être un peu trop protégés, ou bien ça ne fait pas forcément partie de votre discours?
Non, on ne dit pas ça. Après, c'est pas parce que certains seront moins bien protégés.
Je cherche pas à vous fâcher avec Uber Eats.
Mais je ne dis pas ça parce que c'est pas parce que certains seront moins bien protégés demain que les autres le seront mieux. Hein, en fait, elle est là la question. La question, elle est d'abord du financement et elle est peut-être aussi de mieux d'État. Aujourd'hui, on est dans un monde où on dit toujours il faut plus d'État, il faut plus d'État, plus d'État. On est plutôt en train de se dire quand même qu'il faut mieux d'État. C'est-à-dire que la protection sociale telle qu'elle est abondée par notre RSI, notre CIPAV, etc., n'est peut-être pas forcément la mieux administrée du monde. Peut-être qu'avec les mêmes cotisations, avec les mêmes taux de charges chez les indépendants, on arriverait à faire mieux en le faisant un peu plus intelligemment, peut-être en numérisant les process, en gérant mieux les risques, etc.
Voilà, on a beaucoup parlé d'indépendants, d'économie collaborative ce soir. J'évoquais en tout début d'émission cette autre négociation en cours sur la nouvelle négociation, sur la nouvelle convention collective qui sera appliquée à l'ensemble des cheminots. Quand je dis ensemble des cheminots, c'est-à-dire que ça ne concerne plus seulement la SNCF, mais l'ensemble du secteur qui sera à terme ouvert entièrement à la concurrence. Luc Berryer, est-ce que là aussi, on est dans la même problématique de convergence de droits sociaux? Et est-ce que les négociations en cours, elles portent là-dessus, c'est-à-dire en essayant de faire en sorte que la SNCF s'adapte à l'organisation et aux règles du privé, l'inverse, est-ce que c'est une forme de compromis qui est recherchée?
Je pense que c'est les deux, puisque on avait jusqu'à présent un monopole sur un marché qui était un monopole d'une entreprise publique. Le marché va être ouvert à la concurrence, ce qui veut dire que désormais, potentiellement en tout cas, il pourra y avoir des entreprises de nature différente et qui ont des objectifs d'ailleurs différents et des contraintes différentes qui devront coexister sur ce marché. Donc nous, notre approche, UNSA, c'était de dire que le préalable, à partir du moment où il y avait effectivement un marché qui devenait ouvert, c'était de réguler socialement ce marché. Donc d'où nous réclamions la mise en œuvre d'une convention collective, elle est en train de se négocier en ce moment. Dans cette convention collective, il faut qu'on ait effectivement une régulation des droits. Alors, c'est l'intérêt des salariés, quel que soit leur statut d'ailleurs, qui travailleront dans ce secteur du ferroviaire. Mais je le dis souvent sur l'intérêt des conventions collectives, c'est aussi largement l'intérêt des entreprises d'avoir aussi des éléments de régulation, parce que ce sont des éléments qui régulent aussi en partie la concurrence entre les entreprises. Alors, convergence des droits ou pas, c'est un des sujets importants. On peut penser que la SNCF, qui était d'entreprise dominante, restera largement dominante. Ce qu'on voit de ce qui se passe ailleurs en Europe, par exemple en Allemagne, on voit que la Deutsche Bahn continue à occuper quand même des positions importantes sur le marché. Voilà. Donc il faut discuter, c'est ce que nous sommes en train de faire, des règles communes à l'ensemble des salariés qui interviennent dans ce secteur. Et il faut en même temps, c'est pour ça qu'il y a une double négociation, que dans l'entreprise SNCF, on rediscute, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, de l'organisation des conditions de travail, parce que le fond quand même des différenciations de statut, c'est que l'entreprise publique SNCF restera une entreprise publique, donc avec des missions particulières de service public, et le statut découle de ces missions particulières. Et comment est-ce qu'une entreprise de service public garde sa spécificité d'entreprise publique? On est à France Culture ici, vous êtes dans un secteur radiophonique concurrentiel. Quelle est la spécificité du service public et comment est-ce que sur un marché concurrentiel, on conserve cette spécificité et ces missions particulières? Et derrière, il y a effectivement la question de l'organisation du travail et du statut des salariés qui y travaillent.
Jean-Claude Barbier, pour conclure brièvement, à chaque fois qu'un secteur s'ouvre à la concurrence, se pose cette question de l'harmonisation des droits sociaux?
Oui, et je pense qu'il y a une demande de plus en plus forte de rapprocher les conditions. C'est-à-dire que des choses qui étaient considérées comme tout à fait légitimes il y a 50 ans le sont moins aujourd'hui. Donc, on parle de la SNCF, mais on pourrait parler aussi de la justification de la fonction publique. Toute la fonction publique, qui est évidemment, du point de vue comparaison internationale, très très forte en France, n'est pas très forte en Italie, n'est pas très forte en Allemagne, etc., etc. Donc ces questions-là, elles viendront sur la table. On ne peut pas y échapper.
Et il y a de grandes chances d'ailleurs qu'elles viennent sur la table à la faveur de la campagne de l'élection présidentielle,
par exemple,
de 2017. Il y a déjà un certain nombre de candidats qui ont quelques petites idées là-dessus. J'ai pas eu le temps d'évoquer aussi les projets ou en tout cas les idées de la Commission européenne en la matière, avec Jean-Claude Juncker qui évoque l'idée d'un socle européen de droits sociaux.
Dommage.
Consultation publique qui voilà qui
continue.
Vous savez quoi, on va vous réinviter, Jean-Claude Barbier. Merci en tout cas d'être venu. Merci à Grégoire Leclerc et à Luc Berryer d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez poursuivre comme chaque jour sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Ghislaine David avec à la prise de son Jean-Guy Lamège. Demain, les militaires n'ont-ils que le droit de garder le silence?